Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h.
Cette enveloppe va nous permettre, j'espère, d'atteindre les 40% des dédommagements par rapport à nos pertes.
Le gouvernement débloque 1 milliard d'euros pour aider les agriculteurs, les soutenir alors que le gel a détruit par endroits toutes les récoltes de l'année.
5 condamnations et 8 acquittements dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Verdict plus clément que les réquisitions et dénoncé par les parties civiles.
Pourquoi vos enfants sont-ils accros aux écrans et comment faire pour les en détourner? Conseil de Virginie Riva dans ce journal.
Et puis il y a des secteurs que la crise a boosté. Les entreprises du bricolage cartonnent grâce au confinement.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On commence ce journal avec ce chiffre, 1 milliard d'euros. Voilà l'enveloppe que s'apprête à débloquer l'État pour aider les agriculteurs.
Pour permettre aux arboriculteurs et aux viticulteurs de se remettre de l'épisode de gel qui a par endroits détruit 100% des cultures, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle selon le Premier ministre, dont l'annonce a été accueillie avec soulagement dans les vergers de Molien en Seine-et-Marne. Reportage de Nicolas Feldman.
C'est une année de travail pour rien.
Bernard Houdard remonte les allées de ces vergers encore un peu sonnés. Il s'arrête devant l'un de ses poiriers.
Ces arbres ne feront pas de poire. On a perdu 80, voire plus, de notre potentiel de récolte.
Face à ce constat, l'annonce d'un plan d'aide d'1 milliard d'euros suscite donc quelques espoirs.
Cette enveloppe va nous permettre, j'espère, d'atteindre les 40% des dédommagements par rapport à nos pertes.
Soit quelques centaines de milliers d'euros indispensables pour payer la vingtaine de salariés, mais aussi déjà pour préparer les cultures de l'année prochaine.
C'est le réinvestissement pour obtenir la récolte 2022. Cette enveloppe, elle nous aidera à faire la taille, l'entretien, l'irrigation, la tonte et tous les travaux qui sont nécessaires pour préparer une récolte au niveau du verger.
L'arboriculteur espère toucher une première avance sur ses aides après l'été.
Un reportage de Nicolas Feldman.
Et on en parle plus avant avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui sera mon invitée à 7h40.
L'annonce du verdict la nuit dernière a provoqué des affrontements dans le box des accusés, puis dans la salle d'audience. 5 jeunes ont été condamnés en appel dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon. En 2016, plusieurs jeunes avaient jeté des cocktails Molotov dans leur voiture.
5 condamnations, 8 acquittements, c'est un verdict beaucoup plus clément que les réquisitions du parquet général. Verdict dénoncé par Thierry de Montbrial, l'avocat de l'une des policières.
Ma cliente est effondrée, ne comprend pas ce verdict. Pour les 3 accusés qui ont été condamnés aux peines les plus lourdes, ils n'ont été condamnés que, et je l'assume, à 18 ans de réclusion criminelle. Je crains que ce verdict ne soit très mal accueilli, non seulement par les parties civiles, ça c'est une certitude, en tout cas par les forces de l'ordre en général. Qu'on se retrouve après 50 procédures, alors qu'il y avait 16 auteurs avec 5 condamnés après 2 procès d'assises, c'est quelque chose qui ce soir me donne un sentiment qui est un mélange de honte et de très grande inquiétude pour notre société.
Maître Thierry de Montbrial avec Gladys Laffitte.
Elle veut ouvrir le dialogue pour dépassionner le débat. La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, lance des états généraux de la laïcité.
Les premiers ateliers débuteront mardi prochain. Voilà ce qu'explique la ministre dans le journal du dimanche. Elle s'est confiée à la journaliste Sarah Payou.
Ces états généraux de la laïcité que lance Marlène Schiappa, ça va être jusqu'à l'été un ensemble de tables rondes, de groupes de travail, de débats autour du thème de la laïcité. Donc ça peut être laïcité et jeunesse, laïcité et liberté d'expression, laïcité au travail, etc. Avec des intellectuels, des associations, des syndicats. Donc elle en cite quelques-uns. Elle nous a cité notamment la LICRA, la CFDT. Et parmi les intellectuels qui seront présents, notamment mardi pour le lancement, elle évoquait Caroline Fourest, Barbara Cassin, Henri Peña-Ruiz, des gens comme ça. Et ces états généraux de la laïcité incluront aussi une grande consultation menée par make.org auprès de milliers de jeunes en France pour qu'ils puissent s'exprimer sur le sujet.
Sarah Payou du journal du dimanche avec Yasmina Katou. Le Premier ministre persiste et saisit de nouveau le Conseil supérieur de la magistrature. Jean Castex estime que le vice-procureur du parquet national financier a manqué à ses obligations déontologiques dans l'affaire des Fadettes. La première saisine du Premier ministre avait été rejetée par le CSM.
À Windsor, le temps s'est figé hier, peu avant 16h, figé par l'émotion d'une cérémonie poignante.
Les obsèques du prince Philippe se sont tenues dans la chapelle celle du château, avec cette image très forte, celle d'une reine toute de noir vêtue et pour la première fois totalement seule. Retour sur ses funérailles avec Anaïs Cordoba.
Il y a d'abord eu cette procession militaire en hommage à son passé dans la Royal Navy. Un cortège funéraire très solennel mené par la fanfare des gardes de la reine qui a accompagné le prince pour son dernier voyage vers la chapelle Saint-Georges. Une marche de 8 minutes, un moment d'émotion intense pour les enfants de Philippe qui avançaient derrière le Land Rover portant le cercueil. Dans le cœur de la chapelle, les 30 invités, entièrement vêtus de noir, étaient éparpillés à 2 mètres de distance les uns des autres pour respecter les restrictions sanitaires. Sobre, l'office religieux a rendu hommage à la vie de service du prince et a été ponctué de chants poignants choisis par Philippe en référence à ses origines grecques orthodoxes, à sa vie de marin et à son engagement pour la défense de l'environnement. En fin de cérémonie, un dernier adieu militaire au son de la cornemuse du régiment écossais, accompagnant le cercueil du prince recouvert de son étendard, de son épée et de sa casquette de la marine dans le caveau royal sous la chapelle.
Incroyable, cette cornemuse à la fin. Les images étaient saisissantes.
Et le récit signé Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. En Russie, dans quel état se trouve Alexeï Navalny ? L'opposant est en prison et pour dénoncer ses conditions de détention, qui s'apparentent selon lui à de la torture, il ne s'alimente plus depuis 3 semaines. Certains de ses proches, médecins, exigent de pouvoir le voir. Ils craignent que son état ne se dégrade. La nuit dernière, le président américain a jugé son sort totalement injuste.
7h06, vous restez avec nous dans un instant. Nos ados de plus en plus addicts aux écrans et puis la nouvelle passion des Français, le bricolage. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Marguerite Lefebvre. Et avant de dire le traditionnel, c'est pas bien, cette question ce matin. Pourquoi nos ados sont-ils accros aux écrans ?
Ouais, ils passent de plus en plus de temps à les regarder, téléphone, ordinateur, télévision, parfois tout cela en même temps. Pourquoi sont-ils accros et comment lutter contre ce phénomène ? Eh bien, c'est l'objet d'un livre sorti cette semaine, Les écrans et moi. On voit tout cela avec Virginie Riva.
L'OMS ne parle pas d'addiction au sens strict concernant les écrans, mais parle tout de même pour les jeux vidéo de troubles du jeu vidéo après 12 mois consécutifs de grande consommation. Il n'empêche, les enfants sont de plus en plus accros, avec une conséquence aujourd'hui, trop de temps d'écran, c'est moins de temps de sommeil. Ce qu'il faut savoir pour les parents, c'est comment son enfant utilise les écrans. Serge Tisseron, psychiatre et auteur de Les écrans et moi.
Certains disent qu'il ne faut pas passer plus de 2 heures par jour avant 6 ans. De fait, aujourd'hui, les enfants dépassent beaucoup ces heures souhaitables. Mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément problématique, que ce qui est important, c'est prendre en compte ce que l'enfant fait avec les écrans et puis aussi la possibilité qu'il a de les partager. Par exemple, jouer avec des camarades à un jeu vidéo. Et puis le troisième élément, c'est l'accompagnement par les parents et la possibilité qu'on a de les partager avec lui, d'en parler avec lui.
Pour éviter de passer trop de temps, notamment sur les réseaux sociaux ou à jouer, le conseil que le psychiatre adresse aux parents, c'est de valoriser son enfant au maximum sur ses notes scolaires, sur ce qu'il fait au quotidien. Bref, lui donner des gratifications dans la vie réelle pour ne pas qu'il cherche une fausse popularité dans des univers virtuels.
Les explications de Virginie Riva.
Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce qui suit. Depuis l'arrivée du Covid, il y a ceux qui ont fait du pain, du yoga sur Internet, mais l'activité qui bat tous les records, c'est le bricolage.
Oui, l'année 2020 a été exceptionnelle pour toutes les entreprises du secteur. Les ventes ont bondi, Maud Descamps.
Avec 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, la filière du bricolage a le sourire. Une croissance de 13% par rapport à 2019, du jamais vu. Le secteur a bénéficié d'un effet Covid. Avec beaucoup plus de temps passé à la maison, les Français ont retroussé leurs manches. Caroline Hupin est directrice générale de la Fédération des magasins de bricolage.
On voit de très bons résultats pour les rayons de la peinture, notamment, qui fait plus 22%. La décoration, plus 16%. Il a fallu que les gens s'équipent aussi. Et c'est d'ailleurs l'outillage qui a la plus grande croissance avec plus 28%. Ça montre bien qu'on a conquis de nouveaux publics, en l'occurrence d'ailleurs plutôt les jeunes, la tranche d'âge entre 18 et 30 ans.
Et ce nouveau public s'est également tourné vers les ventes en ligne. Le leader européen sur le marché est français, Mano Mano. L'entreprise a doublé de taille en un an avec 100% de clients en plus par rapport à 2019.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'est un enjeu dont on vous a déjà parlé sur cette antenne. Pour inciter les Français à acheter des voitures électriques, il faut bien sûr installer des bornes de recharge. Le gouvernement en voulait 100 000 d'ici la fin de l'année, d'ici 2021, la fin 2021. Eh bien Aurélien Fleureau, vous nous dites que cet objectif ne sera pas atteint.
Oui, plus 9% depuis le début de l'année. Alors cela progresse, hein, mais c'est une montée en charge plutôt lente. Et s'il n'y a pas encore d'outils totalement exhaustifs pour lister le nombre de points de charge, le GIREV, groupement pour l'itinéraire des recharges électriques de véhicules, en dénombre environ 37 000 à la fin mars, peut-être même un peu plus, selon les calculs de François Gatineau, fondateur de Mobilis, cabinet de conseil spécialisé en mobilité électrique, mais tout de même insuffisant pour atteindre 100 000.
Ça prend du temps parce que sur tout ce qui est espace public, il y a des contraintes liées aux projets, aux appels d'offres. Mais en tous les cas, le recensement global, si on le fait, on est plutôt à de l'ordre de 45 000 points de charge. Il reste que 7 mois et demi pour pouvoir à la fois attribuer, installer, mettre en service. Il en reste beaucoup.
Aux lenteurs administratives, s'est aussi ajoutée la pénurie mondiale de composants électroniques qui allonge encore un peu plus les délais de livraison. Pourtant, des améliorations seront visibles dans les semaines qui viennent, notamment sur les autoroutes. Et puis, un amendement vient d'être voté à l'Assemblée nationale pour obliger l'installation de bornes sur les parkings publics d'ici 2025.
Merci Aurélien Fleureau. Cet amendement d'ailleurs fait partie de la loi climat dont les députés ont achevé hier l'examen. Ils ont notamment validé la création d'un délit d'écocide pour sanctionner les atteintes à l'environnement.
On passe au sport, Marguerite, et ce matin, on est ravis de vous emmener dans le quotidien de l'équipe de France de handball féminin.
Oui, les handballeuses sont en plein stage de préparation avant les Jeux Olympiques et c'est la dernière équipe nationale qui autorise encore la présence de journalistes malgré l'épidémie. Chez nous, c'est Axel May, donc, pour Europe 1, qui a pu les rencontrer.
Dans leur cocon de la maison du handball, les joueuses tricolores se sont entraînées toute la semaine. Et si elles font bien sûr attention au protocole, les Françaises ne vivent pas non plus recluses. L'arrière, Blandine Dansette.
Mais en fait, on l'a fait au championnat d'Europe cet hiver. C'est vrai que c'était un peu stressant de ne pas pouvoir sortir de l'hôtel, surtout de ne pas pouvoir prendre l'air. Ici, on a de la chance, on est dans des installations où on a notre espace à nous. On est quand même en bulle sanitaire. Bon, là, je vous parle parce qu'on sort de l'entraînement, mais sinon, on a tout le temps le masque.
Initialement, les Bleus auraient dû disputer deux matchs amicaux en Norvège. Ils ont été annulés en raison de la situation sanitaire. Olivier Crumble, le sélectionneur.
Ce stage a été compliqué à mettre en œuvre parce qu'après, on s'est posé la question de savoir si on allait être en stage ici ou plutôt à Cap-Breton. Et c'est très compliqué avec l'hôtellerie actuellement.
Avec une grande absente à ce stage de préparation olympique, la capitaine Siraba Dembélé, victime dimanche dernier d'une rupture du tendon d'Achille avec son club. Elle manquera ce qui devait être ses derniers JO.
Reportage d'Axel May. Puis toujours en sport féminin, sachez que l'équipe de France de rugby a battu l'Irlande hier. Les Bleus sont toujours en lice pour un grand chelem dans ce tournoi des Six Nations. Et puis en cyclisme, place aujourd'hui à la première des classiques ardennaises, l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas. Le Français Julien Alaphilippe, bien sûr, sera au départ.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le journal de 8h avec notre invité Olivier Pouls. Des vins de Bordeaux à 2€ la bouteille. Les viticulteurs qui sont obligés de brader leur production, on en parle.